Vous écoutez, on lit pour vous.
Ensemble, à la rescousse de l'école. Un texte de Marine Cornu, paru le 22 août 2024 dans Québec Science. Et si, au lieu de réinventer la roue au gré de chaque élection ou changement ministériel, nous écoutions ceux qui vivent l'école au quotidien pour améliorer le système scolaire? J'ai fait l'exercice de demander autour de moi quoi faire en priorité pour secourir notre système éducatif. Sans surprise, j'ai obtenu presque autant de réponses différentes que j'ai interrogé de personnes. Certes, tout le monde s'accorde sur le fait que le milieu de l'éducation a besoin d'amour. Mais nous avons tous et toutes une vision de l'école teinté par ce que nous y avons nous-mêmes vécu, par ce que nos enfants y vivent, par nos valeurs, nos professions. Alors, comment s'entendre sur les priorités et s'attaquer aux chantiers les plus urgents? C'est pour répondre à ces questions cruciales que l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, OPES, a lancé, juste avant l'été 2024, une consultation publique dans toute la province. L'OPES, créée en 2021 pour coordonner la recherche sur les répercussions de la pandémie sur les enfants, s'est alliée, pour l'occasion, à l'entreprise Polygon, spécialiste de la cartographie conceptuelle. Cet outil de synthèse, très utilisé en éducation, permet de regrouper, classer et structurer diverses idées et concepts afin d'évaluer la façon dont un groupe de personnes perçoit une problématique donnée. Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'une consultation est organisée au sujet de l'école. Dans la sphère politique, c'est même une sorte de passage obligé. Chaque ministre de l'Éducation, ou presque, lançant de vastes consultations sur la réussite scolaire, la jeunesse, les services éducatifs. Sans forcément que l'exercice aboutisse à des mesures concrètes, d'ailleurs. Mais le projet de l'OPES, baptisé « Unis pour l'école, ma voix, notre impact », revendique sa singularité autour de deux mots d'ordre « collaboration et solution ». Nous cherchons à obtenir un portrait global en dépassant les enjeux associés seulement aux enseignants, par exemple, et en déterminant ce qui est prioritaire aux yeux de tous les acteurs. M'a expliqué Isabelle Ouellette-Morin, professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et directrice de l'axe Innovation sociale de l'OPES. Au-delà de la réussite scolaire, l'équipe se penche plus globalement sur le bien-être des élèves. La première phase du sondage, menée en ligne en français et en anglais, a permis de recueillir l'avis de 5000 personnes de toutes les régions du Québec. Parents, personnel enseignant et non enseignant, direction d'établissement, centres de services scolaires et partenaires communautaires. Leurs réponses ont permis de retenir 6 défis urgents par ordre de priorité. Les écrans et leur gestion en classe. L'intimidation et la violence. L'épuisement des profs. La régulation du stress et de l'anxiété des élèves. Le manque de motivation et d'intérêt de certains enfants pour l'école. Et le peu d'arrimage entre les services et les besoins des élèves. Mais on ne s'est pas contenté de lister les problèmes. Les personnes sondées devaient aussi suggérer des solutions. Il y en a eu 22 000, pour la plupart déjà éprouvées sur le terrain. Rien que pour l'intimidation, par exemple, il y avait 800 stratégies recensées. Polygon nous a aidés grâce à l'intelligence artificielle, à en sélectionner 45, qui représentent le mieux la diversité des réponses au sondage. explique Mme Ouellette Morin. Un second sondage a permis d'évaluer la faisabilité et le potentiel d'impact de ces propositions. Elles serviront de point de départ pour des ateliers de co-design menés à l'automne par l'OPES et auxquels participeront une vingtaine de partenaires, dont les fédérations d'enseignants, de parents, les maisons de jeunes, etc. Ces solutions pourront-elles être implantées à l'échelle de la province? Ou à tout le moins dans certains établissements? Et seront-elles financées adéquatement? Si le ministère de l'Éducation est au courant des démarches de l'OPES, il n'en est pas l'instigateur et n'a fait aucune promesse. Justement, c'est peut-être là la clé. Plutôt que de réinventer la roue à chaque élection, s'inspirer du point de vue de ceux et celles qui font l'école ou gravitent autour, de façon non partisane, semble être un bon point de départ. Cette approche n'est pas magique. Il y avait en tout 56 problèmes listés en amont du sondage par les partenaires et certains sont litigieux. Pensons à l'intégration à tout prix des enfants à besoins particuliers dans les classes ordinaires. Est-ce toujours la meilleure option? La formation des profs, régulièrement critiquée. Ou encore le décalage qui existe parfois entre les recommandations pédagogiques appuyées par des données probantes et les méthodes appliquées dans les faits en classe. Mais voilà, s'il y avait une recette pour construire l'école idéale, cela se saurait. Pour autant, les idées originales qui émergent dans les quelques 2700 écoles primaires et secondaires du Québec méritent certainement d'être connues. Avis aux intéressés, les publications scientifiques qui découleront du travail de l'OPES seront accessibles gratuitement en français. Il y a une visée de recherche, mais nous souhaitons surtout être un vecteur de changement, assure Isabelle Ouellette Morin. Un changement émanant de l'intelligence et de l'analyse collective. Voilà qui est encourageant pour la rentrée. C'était « Ensemble à la rescousse de l'école », un texte de Marine Corniou, paru le 22 août 2024 dans Québec Science.
La Nouvelle-Écosse exhortait à fermer les chemins qui mènent les gens à la rue. Un texte de la presse canadienne, paru le 13 août 2024 sur Ici Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse peut prendre une mesure importante pour réduire l'itinérance en s'attaquant aux chemins qui conduisent les personnes vulnérables à se retrouver dans la rue, a plaidé récemment la directrice d'un refuge pour femmes et enfants. Les baux à durée déterminée et les rénovictions sont deux de ces avenues, a affirmé Sherry Lecker, directrice générale d'Adsum for Women and Children, devant un comité législatif à Halifax. Un bail à durée déterminée permet à un propriétaire d'augmenter le coût du loyer bien au-delà du plafond de 5 % fixé par la province, et une rénoviction fait référence au fait qu'un locataire est obligé de quitter son logement pour des rénovations qui mènent souvent à des hausses de loyer pour le futur occupant. Ces deux problèmes ne sont pas nouveaux, mais ils peuvent être résolus par une action politique, a avancé Sherry Lecker, ajoutant que l'itinérance en Nouvelle-Écosse a explosé ces dernières années. Citation « Nous devons reconnaître que ces enjeux politiques pourraient être abordés. » Fin de citation, a-t-elle souligné. Après la réunion, Sherry Lecker a relevé un autre problème ayant un impact sur l'accessibilité au logement. Les règles sur les plafonds de loyer ne sont pas liées à un logement. Ainsi, si un locataire quitte un appartement ou une maison, le propriétaire peut en augmenter considérablement le loyer pour le prochain occupant. Des statistiques non représentatives. Sherry Lecker a ajouté que la totalité des personnes sans abri n'est pas représentée dans les données officielles et que l'itinérance va bien au-delà des tentes que l'on peut voir un peu partout dans la ville. Elle a fait référence à une liste de l'Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse, composée de 1286 personnes ayant déclaré être sans domicile fixe à Halifax la semaine dernière. Ces données, a-t-elle soutenu, ne représentent pas l'intégralité de la population locale de sans-abri. Au moins 197 enfants vivant dans des logements instables sont exclus de la liste, a-t-elle poursuivi, ajoutant que beaucoup plus de personnes sont considérées comme des sans-abri cachés et ne déclarent pas être itinérantes. Logement et santé, étroitement liés. Sherry Lecker a rappelé au comité législatif que la santé et la crise du logement ne peuvent pas être traitées séparément et qu'un logement sûr et stable est nécessaire en premier lieu pour améliorer les résultats de santé des néo-écossais. Citation. Le logement est un soin de santé, c'est le fondement de toutes nos vies. Fin de citation, a martelé Sherry Lecker, ajoutant que pour que les gens puissent prendre rendez-vous pour répondre à leurs besoins de santé ou se remettre d'un problème de santé, ils ont d'abord besoin d'un toit au-dessus de leur tête. Une étude nationale montre que les Canadiens sans domicile fixe, par rapport aux personnes logées, sont susceptibles d'être plus malades, plus longtemps, et que leurs visites aux urgences durent plus longtemps et coûtent plus cher. Joy Knight, une haute fonctionnaire du ministère de la Santé, a confirmé que les données des services d'urgence de la Nouvelle-Écosse reflètent cette étude. En moyenne, la visite aux urgences d'une personne sans abri coûte 20 000 $ contre 10 000 $ pour une personne logée en sécurité, a-t-elle illustré. Citation. La raison en est que le séjour est plus long. Si vous êtes sans abri, nous ne voulons pas vous obliger à partir alors que vous n'avez peut-être nulle part où aller. Fin de citation, a expliqué Joy Knight aux journalistes après la réunion. Marie-France Leblanc, PDG du Centre de santé communautaire du North End, qui gère un programme de soins de santé primaire pour les personnes sans abri ou mal logées à Halifax, s'est également exprimée devant le comité. Elle a déclaré qu'environ 1980 patients sont régulièrement vus par l'équipe de la clinique, composée d'infirmières, de travailleurs sociaux, d'une infirmière praticienne et de trois médecins qui travaillent à la clinique à temps partiel en plus d'autres responsabilités. Ce nombre s'ajoute aux 5000 autres patients de leur programme clinique qui fournit des soins de santé à long terme aux personnes qui sont sorties de l'itinérance pour trouver un logement plus sûr, a-t-elle indiqué. Citation. Et puis, il y a 4000 autres personnes que nous allons voir si elles se présentent pour demander des soins. Fin de citation, a ajouté Marie-France Leblanc. Citation. Nous ne refusons personne pour le moment, car les personnes que nous rencontrons ont été confrontées à des obstacles toute leur vie. Ainsi, lorsqu'elles viendront vers nous, nous ne serons pas un obstacle supplémentaire. Fin de citation. L'organisation fournit également actuellement des logements à 200 personnes et prévoit d'en offrir 37 autres en mars. C'était la Nouvelle-Écosse exhortée à fermer les chemins qui mènent les gens à la rue. Un texte de la presse canadienne paru le 13 août 2024 sur Ici Nouvelle-Écosse.
Place publique. Quatre textes du réseau FADOC, parus à l'automne 2024 dans le magazine Virage. 1. Plan d'action, la fierté de vieillir. De bonnes intentions, mais... Habitation, soins domicile, lutte contre l'âgisme, transport collectif. L'ambitieux plan quinquennal, récemment dévoilé par Québec, envoie certes un bon signal aux personnes aînées de la province, soutient le réseau FADOC. Mais encore faut-il que le gouvernement passe de la parole aux actes. Intitulé « La fierté de vieillir », le plan d'action, le troisième issu de la politique gouvernementale « Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec », vise à soutenir la réalisation de 102 actions portée par 34 ministères et organismes gouvernementaux. Son objectif est de concrétiser le vieillissement actif et améliorer les conditions de vie des personnes aînées. Bien qu'il applaudisse les objectifs de ce plan d'action dévoilé en mai dernier et l'esprit de concertation qui l'anime, le réseau FADOC reste sur sa faim quant aux mesures spécifiques qui seront déployées et aux ressources financières qui y seront consacrées. L'annonce d'une politique nationale de soins et services à domicile en est un exemple. Nous saluons évidemment cette intention, puisqu'il s'agit d'une priorité pour notre organisation. Cependant, nous ne savons pas ce qu'elle contiendra et à quel moment elle sera déployée. Nous avons hâte de voir comment l'efficacité sera améliorée, a déclaré la présidente du réseau FADOC, Gisèle Tassé-Goodman. Diversifier les milieux collectifs. Le plan d'action contient aussi de bonnes orientations en matière d'habitation, reconnaît le réseau. Mais ce dernier estime que les propositions gouvernementales demeurent trop timides quant à la diversification des milieux de vie collectifs pour personnes aînées avec soins et services, coopératives ou SBL d'habitation, et le soutien aux projets de maisons intergénérationnelles. Du côté du travail et des ressources financières, la FADOC salue la volonté de simplifier l'accès des personnes aînées au crédit d'impôt, mais ajoute qu'une bonne façon d'y arriver serait de les harmoniser en fixant leur âge d'admissibilité à 65 ans. Le réseau veut collaborer. Le plan d'action gouvernemental émet aussi la volonté de véhiculer une image positive du vieillissement. En rappelant qu'il agit en ce sens au quotidien, le réseau FADOC tend la main au gouvernement pour lui offrir son expertise, indiquant qu'il peut être un partenaire de choix dans la lutte contre l'âgisme et la promotion d'un vieillissement actif. 2. Le décloisonnement, un remède nécessaire. Le réseau FADOC accueille favorablement le projet de loi 67 qui vise à décloisonner les professions, dont celle du domaine de la santé. Entre autres modifications, le gouvernement du Québec propose de rehausser les actes pouvant être effectués par les pharmaciennes et pharmaciens, notamment en élargissant leur pouvoir de prescrire et de prolonger certaines ordonnances, ainsi que d'effectuer des prélèvements. Québec veut également créer des permis de pratique restreints, ce qui permettrait à des professionnels et professionnels de la santé d'effectuer des actes particuliers, même s'ils sont en attente d'une reconnaissance de leurs acquis ou de la fin de leur formation. Cela pourrait aussi faciliter l'implication de personnes retraitées qui n'ont plus nécessairement un permis de pratique valide. Ces mesures proposées vont dans le même sens que les recommandations du réseau FADOC, qui y voit une façon de pallier l'enjeu du manque de main-d'œuvre dans le domaine de la santé. Le projet de loi 67 sera étudié lors de la prochaine session parlementaire qui débutera en septembre. 3. Une avancée historique à l'ONU. Après 14 ans de discussion, un groupe de travail, dont fait partie le réseau FADOC, recommande enfin à l'Assemblée générale des Nations unies, ONU, d'adopter une convention internationale sur les droits des personnes aînées. Cette avancée historique représente une grande source de fierté pour le plus important regroupement de personnes de 50 ans et plus au pays. En mai dernier, le groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement a adopté à l'unanimité une décision qui sera soumise à la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce document identifie des manquements en matière de protection des droits des personnes aînées et recommande différentes options afin de pallier la situation. Une convention internationale. Parmi les propositions adoptées par le groupe de travail, notons l'instauration d'un instrument juridiquement contraignant afin d'assurer le respect et la promotion des droits des personnes aînées. En d'autres mots, une convention internationale sur les droits des personnes aînées. Cette réussite est le fruit d'efforts concertés de la part d'États membres, d'organismes de défense des droits de l'homme et d'organisations non gouvernementales, dont le réseau FADOC. Ce sera maintenant à l'Assemblée générale de décider quelle suite donner au rapport. Un forum international. Le réseau FADOC anticipe que les discussions à propos d'une convention internationale se feront au Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève. Il est également possible qu'un forum sur les personnes aînées se tienne à New York chaque 2 ans. 4. RPA, une intervention pour freiner la maltraitance financière. À la demande de 6 organismes, dont le réseau FADOC, la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, a modifié un programme d'allocation pour résidence privée pour aînés, RPA, afin de corriger une faille qui pouvait mener à des augmentations faramineuses de loyers. Le programme d'allocation personnalisée, PAP, prévoyait le versement d'une aide financière aux locataires de petites RPA qui offrent des services d'assistance personnelle ou de soins infirmiers, mais impliquait également de modifier le bail en cours, en plus de rendre le locataire responsable de ses soins d'un point de vue légal et financier. Certains gestionnaires y ont vu l'occasion de revoir leurs tarifs à la hausse. À cet effet, les Centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, CAAP, ont constaté des hausses vertigineuses, allant même jusqu'à 173%, ce qui s'apparente à de la maltraitance financière. Fermer la brèche. En mai dernier, la ministre Bélanger a annoncé que désormais, la relation contractuelle en lien avec l'allocation personnalisée concernera uniquement le CI3S et CIU3S et la résidence, sans aucun impact sur les baux et qu'aucun montant additionnel ne sera exigé des locataires. Néanmoins, le réseau FADOC se dit toujours préoccupé par le sort des locataires en RPA qui ont subi d'importantes augmentations de loyers, induites directement ou indirectement par le programme. C'est pourquoi il réclame une intervention rapide du gouvernement afin d'accompagner les personnes qui ont été lésées dans le processus de mise en œuvre du PAP. C'était, place publique, 4 textes du réseau FADOC parus à l'automne 2024 dans le magazine Virage.
Les 3/4 des musulmanes voudraient quitter le Québec, avance une experte. Un texte de Lise Denis, paru le 10 juin 2024 dans Le Devoir. Près des 3/4 des musulmanes songeraient à quitter le Québec en raison de la loi sur la laïcité de l'État, loi 21, adoptée il y a près de 5 ans, selon une experte qui a été très critique de la loi raciste et sexiste devant des élus fédéraux le lundi 10 juin 2024. Mes études montrent que plus de 73% des femmes musulmanes du Québec envisagent de quitter la province, a déclaré Nadia Hassan, professeure adjointe à l'École d'études sur le genre, la sexualité et les femmes de l'Université York, devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Au moment où ces lignes étaient écrites, Le Devoir n'avait pas encore pu consulter les études en question. La chercheuse, qui a été chef des opérations du Conseil national des musulmans canadiens, CNMC, jusqu'en juillet 2023, a toutefois détaillé sa méthodologie. Financée par Femmes et égalité des genres Canada et commandée par le CNMC, l'analyse est basée sur les réponses à un sondage de 411 musulmanes vivant au Québec. Les 3 signataires ont également mené de longues entrevues avec 10 de ces femmes et sondé 750 membres de la population générale québécoise. Les résultats ne sont pas acceptables, a indiqué Mme Hassan. Ce n'est pas ce que nous appelons l'harmonie sociale. Elle affirme que les impacts de la loi 21 dépassent largement son cadre expliquant que des femmes qui postulent à des emplois dans le secteur de la santé se font questionner sur leur identité religieuse. Capacité à discriminer, légaliser. La représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, Amira El-Gawabi, elle aussi présente, a réitéré que la loi sur la laïcité de l'État est discriminatoire. Je suis clair, et c'était toujours clair, que les effets de cette loi sont discriminatoires sur les minorités religieuses et que les minorités musulmanes, les femmes musulmanes qui portent le voile, sont discriminées, a-t-elle dit au Devoir. Les femmes musulmanes déclarent se sentir visées et être en passe de devenir des boucs émissaires politiques au Québec, a souligné Mme Hassan. Elle redoute ce que le gouvernement québécois va faire de plus pour les priver de leurs droits. « La loi doit être abrogée. Il n'y a aucun doute à ce sujet », a-t-elle ajouté en entrevue avec Le Devoir. « Nous avons légalisé notre capacité à discriminer. » Montée inquiétante de l'islamophobie. Mesdames Hassan et El-Gawabi témoignaient dans le cadre d'une étude sur l'islamophobie et les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour répondre aux craintes légitimes exprimées par la communauté musulmane du Canada. Les deux femmes ont fait part d'une montée de l'islamophobie au pays. Au cours des 8 derniers mois, la situation n'a fait qu'empirer, a déclaré Mme El-Gawabi. Nous assistons à une montée terrifiante de l'islamophobie partout, amplifiée par le racisme anti-arabe et anti-palestinien. Ces actes haineux vont de la discrimination au vandalisme, en passant par le harcèlement, et placent la communauté dans une peur constante. Je suis profondément inquiète de tout cela, et je crains que les choses ne fassent qu'empirer. Selon Nadia Hassan, beaucoup d'attaques ciblent les femmes qui portent un hijab. Certaines se le font arracher, d'autres reçoivent des coups dans la tête ou dans l'estomac ou se font cracher dessus. Ce à quoi les femmes musulmanes font face est tout à fait atroce. Il y a à peine 2 jours, un homme a mis le feu à la maison d'une famille de London en Ontario qui affichait devant son domicile son soutien à la Palestine. La police a lancé une enquête sur un possible incident motivé par la haine, 2 jours après que la ville a souligné le 3e anniversaire de l'attaque meurtrière contre une famille musulmane. La déshumanisation des musulmans qui se développe au Canada est inquiétante et est similaire à l'ère qui a suivi le 11 septembre 2001, a prévenu Mme El-Gawabi, jugeant que l'étude du comité est non seulement nécessaire, mais urgente depuis longtemps. C'était « Les 3/4 des musulmanes voudraient quitter le Québec », avance une experte, un texte de Lise Denis, paru le 10 juin 2024 dans Le Devoir.